Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France, nous a rejoint dans les studios. Merci, monsieur l'ambassadeur.
Merci
d'avoir fait le déplacement pour parler directement aux auditeurs de Radio Shalom dans des moments qui sont évidemment très difficiles. Et si vous voulez, pour commencer notre entretien, je vais peut-être vous raconter une anecdote. Quand il y a deux juifs en France aujourd'hui qui se rencontrent, ils disent « Ah, mais ça va mal ». Et en général, la phrase d'après, c'est « Oui, mais ça, tu me l'as déjà dit la dernière fois qu'on s'est vu ». Et je me suis fait la réflexion ce matin parce que j'ai eu cette conversation avec un ami journaliste et je lui ai dit « Oui, mais la dernière fois, c'était encore pire qu'aujourd'hui ». Donc là, on dit quelque chose de nouveau. Donc je ne sais pas si vous réalisez, mais par exemple, vous, bah déjà, dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Franchement, vous avez déjà vécu ça.
Ça, exactement. Vous voulez dire cette...
Oui, ça ne va pas très bien. Le gars vous dit « Non, mais ça, on se l'a déjà dit la dernière fois ».
Moi, mon grand problème, c'est que je suis vraiment optimiste. Fondamentalement optimiste. Je pense vraiment que les choses vont s'améliorer. Et j'essaie toujours de chercher, même s'il y a un dixième de verre qui est plein, de regarder ce qui est plein plutôt que ce qui est vide. Et je pense vraiment que, oui, bon, les choses, c'est vrai que les choses vont mal en général quand on regarde ce qui se passe encore en Israël et avec la guerre et l'antisémitisme, un tsunami d'antisémitisme terrible qui se passe en Europe et dans le monde entier. Vous savez, hein, nous sommes le peuple éternel.
Donc ça va.
On a vécu des choses pires. Ouais. On va passer ça.
Mais la première fois que je vous ai rencontré en tant que journaliste, vous avez dit, nous, on était tout un groupe. Vous avez tort, ça va bien entre la France et Israël. Ouais, c'était juste après. Ah, vous voyez.
Ouais, ça.
C'était juste après le salon de l'armement. Vous avez dit, mais non, c'est une erreur. Vous inquiétez pas, ça va se réparer. Et là, j'ai sous les yeux votre dernière déclaration sur RTL. Et vous dites, la France n'est plus un partenaire pour faire avancer la paix. Ça, c'est quand même très nettement dégradé.
Ça s'est très nettement dégradé, surtout que la France a fait une grande, grande erreur. Vous savez, quand on parle de paix, on a fait, pendant certains d'entre nous, on a fait pendant de longues années justement pour la paix, je fais partie de ce groupe. Et la paix, ça se fait, j'ai cité Shimon Peres. Excusez-moi, je m'excuse pour les... Mais c'est Shimon Peres, c'est pas moi qui ai dit ça. La paix, ça se fait comme l'amour. Derrière une porte fermée. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en public avec des déclarations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Un espèce de théâtre qui a pour but peut-être de calmer certaines populations en France ou peut-être de faire en sorte que, voilà, on reste avec un héritage, certaines administrations restent avec un héritage, etc., etc., mais qui n'est malheureusement pas lié avec la réalité, pas lié avec, disons, les mécanismes qu'il faut mettre en place pour créer la paix. Et ce qu'a fait la France maintenant, c'est au lieu d'aider la paix, à cause justement de cette création d'anticipation, d'attente par les Palestiniens, que, voilà, les choses vont se calmer, les choses vont se régler. Maintenant, la France est venue à notre aide, donc on n'a plus besoin de rien faire. À cause de cela, ce qu'il faut faire, justement, les compromis que doivent faire les Palestiniens pour la paix, parce qu'il y en a énormément, ils sont beaucoup moins prêts à les faire. Et donc, si la France, auparavant, était un partenaire pour faire avancer la paix petit à petit, en réfléchissant, en faisant les pas qu'il faut faire, parce que c'est très difficile, maintenant, avec cette gaffe qu'ils ont fait, vraiment... On ne peut plus vraiment compter pour eux pour nous aider à faire avancer la paix.
Jérémy.
Et Monsieur l'ambassadeur, Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, a expliqué que si la France aujourd'hui voulait reconnaître l'État palestinien, c'était aussi pour marginaliser le Hamas, que les pays arabes allaient condamner le Hamas et qu'avec cette reconnaissance, le Hamas allait être mis hors jeu. Qu'est-ce que vous lui répondez?
J'ai entendu cette déclaration. Franchement, je suis sûr qu'il est de bonne foi, qu'il y a une certaine logique dans cette déclaration. J'ai du mal à la trouver, franchement. J'ai du mal à trouver la logique dans cette déclaration. Surtout que la déclaration, l'annonce par le président que la France allait reconnaître l'État palestinien s'est faite le jour où le Hamas a rejeté pour la quatrième fois une offre de cessez-le-feu qui avait pour but d'arrêter cette guerre terrible. Et donc, ils n'ont pas fait exprès. C'est clair qu'ils n'ont pas fait exprès de faire ça le jour même. Mais le fait est que ça donne un message, c'est un message peut-être un sous-texte, mais ça donne un message au Hamas, continuez cette guerre, ça va, ne vous inquiétez pas, la France vous donne un certain soutien, même si ce n'était pas du tout le but. Je suis sûr que ce n'était ni le but du président, ni le but du Quai d'Orsay, ni de tous ceux qui ont œuvré pour cela. Mais en fin de compte, au lieu d'aider, au lieu de marginaliser le Hamas, et c'est, le fait est que le Hamas a été le premier acteur à applaudir. Alors, je ne suis pas sûr que ce groupe terroriste se sent aujourd'hui marginalisé. Plutôt, ils se sentent en très bonne position. Si la France, avec d'autres pays, font une conférence le jour où nous décidons de refuser, la semaine où nous décidons de refuser pour la quatrième fois une offre de cessez-le-feu, ça veut dire que les choses vont bien pour nous.
Alors les auditeurs, qui voient un peu la situation aussi dans leur vie au quotidien, ont remarqué que c'était le lendemain de l'agression des jeunes enfants juifs dans la compagnie Vueling. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Non, oui, bien sûr.
Alors pour une maman, un papa qui écoute la radio, se dit attends.
Oui, et en plus, je ne suis pas sûr qu'il y avait eu déjà une réaction de la France par rapport à ce qui s'était passé. Et franchement, c'est ce qui s'est passé en Espagne, c'est quelque chose de très inquiétant. Hein. Ça fait partie de tout ce mouvement d'antisionisme, ce tsunami dont je parlais, d'antisémitisme, qui a lieu ces derniers temps. Et maintenant, il suffit qu'un enfant dise un mot en hébreu, fasse une prière en hébreu, chante en hébreu pour que tout son groupe soit jeté d'un avion. Et non seulement cela, mais les représentants de la compagnie osent dire que non, les enfants menaçaient la sécurité de l'avion parce qu'ils avaient je ne sais pas quoi. C'est vraiment... la honte a disparu. La honte a disparu. Et cette compagnie, je le dis et je le redis, et j'espère que cette compagnie fera faillite bientôt.
On évoquait tout à l'heure la situation pour les Juifs en France ou en Europe, mais on a l'impression qu'il y a une véritable obsession qui s'est intensifiée ces dernières semaines. On a des artistes comme Amir, comme Marie Saint-Phil, qui sont des gens qui portent une voix de paix. On a de plus en plus d'agressions physiques, le rabbin de Neuilly, le rabbin de Grenoble. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un moment qui est absolument inédit en termes de violence contre les Juifs?
Ce n'est pas inédit parce qu'on a quand même vécu la période des années 30 du siècle dernier.
Depuis la Seconde Guerre mondiale.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est totalement inédit. Totalement inédit. On se rapproche du niveau d'antisémitisme qu'il y avait dans les rues d'Allemagne, qu'il y avait dans les rues de France sous Vichy, qu'il y avait dans les rues d'Europe contre les Juifs, où les Juifs avaient peur d'être reconnus comme tels, où les Juifs avaient peur de porter quelque chose qui était... typiquement juifs, et où les juifs se marchaient avec les chaînes courbées parce qu'ils avaient peur d'être matraqués ou harassés, etc.
Ce qui est grave, c'est qu'au moment de l'Eurovision, au moment des Jeux Olympiques, on reprochait aux équipes israéliennes de représenter Israël, et donc, même si effectivement c'est très discriminant de boycotter une équipe, il y avait une logique qui était, oui mais vous représentez Israël et donc on vous combat. Après, on a attaqué les Israéliens parce qu'ils sont Israéliens, c'est le cas de Amir ou c'est le cas d'autres. Là, maintenant, on attaque les Juifs parce qu'ils sont Juifs.
Vous savez, c'est un parallèle exact de ce que font les Iraniens. Parce que les Iraniens, quand ils nous font la guerre et qu'ils utilisent le terrorisme parce qu'ils ne peuvent pas nous attaquer directement, ils essayent d'attaquer le gouvernement israélien. Quand ils ne réussissent pas, ils attaquent des hommes d'affaires israéliens. Quand ils ne réussissent pas, des touristes israéliens. Et quand ils ne réussissent pas, ils attaquent les Juifs. Alors c'est exactement la même chose et malheureusement, c'est une méthode qui a été adoptée par certains groupes politiques français. C'est une méthode qui a été adoptée par certains, disons, antisémites, qu'ils soient en France, qu'ils soient à travers le monde, qui aujourd'hui n'ont pas honte d'une façon très claire de dire « Ah ben les Juifs sont des génocidaires, etc. » C'est incompréhensible, c'est incompréhensible. Et franchement, vous savez, ce concept du génocide, hein, le concept du génocide, d'abord, c'est quelque chose qui a été inventé par les Soviétiques dans les années 70, dans les années 80, quand Arafat a commencé sa campagne pour palestinienne. Mais non seulement cela, mais après, au début de cette guerre, on nous a accusé de faire un génocide à Gaza le 8 octobre.
Et non, d'affamer Aza le 8 octobre. On nous a accusé de faire un génocide, j'avais 15 ans.
Oui, alors voilà, c'est ça.
Donc, déjà à Lyon, je voyais sur les murs, il y avait marqué « Halte au génocide du peuple ». Oui. Excusez-moi, vous avez mis du temps quand même. Ouais, 15 ans pour génocider 3 millions de personnes.
Alors vraiment, c'est vraiment terrible parce que l'antisémitisme a explosé le 7 octobre 2023. Il a explosé. Je me rappelle des manifestations dans les rues de Paris, de Sydney, de Londres, de New York, un peu partout dans le monde, avec des gens marchaient, disaient mort aux juifs. Alors, ça veut dire que cet antisémitisme était toujours là. Simplement, il attendait l'opportunité de sortir. Il attendait cette opportunité qui lui était donnée, cette porte qui lui était ouverte. Et le 7 octobre a ouvert cette porte pour tous les antisémites du monde. Et c'est, vous savez, la fameuse phrase de Marx, mais antisémites, unissez-vous. C'est ce qui se passe exactement.
Face à la situation géopolitique et à ce climat très pesant pour les communautés juives, on voit de plus en plus de juifs d'Occident qui disent « il n'y a plus qu'une seule solution, c'est l'Alia ». Aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur d'Israël en France, est-ce que c'est un constat qui vous réjouit ou qui vous inquiète ?
Les deux. Les deux, franchement. C'est-à-dire, je suis né ici, j'ai grandi ici, on en avait parlé la dernière fois que j'étais dans votre station, et j'ai fait mon Alia. Alors je pense que le meilleur endroit pour des Juifs, pour qu'ils vivent, c'est en Israël. C'est notre pays, c'est là où nous sommes nés comme peuple. Et c'est là où nous devons habiter. Mais par contre, les Juifs peuvent vivre où ils veulent. Ils ne doivent pas se sentir en danger, qu'ils soient n'importe où dans le monde, qu'ils soient ici à Paris, qu'ils soient à Marseille, qu'ils soient à Nice, ou qu'ils soient à Londres ou dans d'autres pays à travers le monde. Et le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. Alors, je pense que oui, effectivement, l'option de faire son alia et de venir en Israël sera toujours ouverte pour les Juifs. Israël recevra toujours les Juifs.
C'est une inquiétude, ça aussi, pour beaucoup de gens qui disent il faut peut-être faire l'alia maintenant parce qu'il va y avoir une vague d'alia qui va être trop massive et que... À un moment, on n'aura plus cette possibilité. Est-ce que vous rassurez les gens ?
Non, pas du tout. Au contraire. Vous savez, l'Aliyah en Israël a toujours été une bénédiction. La dernière grande Aliyah était l'Aliyah russe qui a fait exploser l'économie israélienne. Nous sommes arrivés aujourd'hui, l'économie israélienne est à un niveau qui est beaucoup plus développé que l'économie française. Pas beaucoup plus, mais plus développé que l'économie française. Et là, une des raisons pour laquelle, c'est justement cette immigration. C'est le fait que les Juifs viennent en Israël, viennent avec ce qu'ils ont appris, viennent avec leur culture, avec leurs valeurs, ils viennent, ils enrichissent le pays. Et plus il y aura cet alia, plus le pays s'enrichira et plus la population du pays s'enrichira. Ça va être un peu serré, mais...
Alors, il y a encore un sujet important, c'est celui des otages qu'on n'a pas évoqué. Et par exemple, Donald Trump a dit le Hamas n'est pas intéressé par un accord parce qu'il n'y a presque plus d'otages. Alors, les familles disent, en tout cas leur comité qui les représente disent, parce que quand on dit les familles d'otages, ça représente énormément de réalités différentes, mais leur comité dit, alors arrêtez la guerre. Puisque accepter un accord, faites revenir les otages. Puisque ça y est, c'est fini maintenant.
Mais si c'était si simple que ça, on l'aurait fait. On a gagné cette guerre. Il ne reste plus vraiment de capacité militaire de Hamas. Le fait est que le Hamas n'accepte pas de libérer nos otages. Si demain le Hamas disait on libère immédiatement tous les otages, arrêtez la guerre se terminera. C'est pas ça. Ils veulent énormément de choses. Ils veulent être capables de continuer à tirer sur Israël. Ils veulent être capables de refaire rentrer des armes par l'Égypte. Ils veulent être capables de se remettre à gouverner la bande de Gaza. C'est pas seulement ça. Et ils veulent être sûrs qu'ils garderont au moins un groupe d'otages vivants jusqu'au dernier moment pour être sûrs que nous ne les empêcherons pas de, par exemple, tirer sur Israël. Alors, c'est triste, c'est terrible. Mais, vous savez, c'est tout à fait normal que les familles fassent cette demande envers le gouvernement israélien. Parce que c'est leur seule adresse. Aller parler au Hamas ou demander au Hamas de libérer les otages, c'est comme si on parlait avec le vent. Mais c'est le Hamas qui les a, ces otages. C'est le Hamas qui les maintient. C'est le Hamas qui ne veut pas les libérer. C'est le Hamas qui tient toute la population palestinienne en otage. C'est pas seulement nos otages à nous. Parce que le Hamas utilise cette population et c'est pas qu'il y prend du plaisir. Pour lui, à chaque fois qu'il y a des civils qui sont tués, ça sert ses intérêts. Et donc, c'est pas à nous qu'il faut le dire, ça. Vous savez, en fin de compte, les soldats qui meurent tous les jours, c'est nos enfants. C'est nos enfants, c'est nos voisins, c'est nos neveux, ils meurent tous les jours encore à Gaza. Alors, bien sûr qu'on veut terminer cette guerre. C'est le Hamas, pour l'instant, qui nous tient en otage.
Quand j'ai fait mes études à l'Université Tel Aviv, j'étais en sciences politiques, et j'ai appris vraiment à Tel Aviv, que quand on déclenche une guerre, disaient nos profs, il faut se définir des objectifs, il faut voir le prix que ça coûte. C'est comme ça qu'on enseigne en sciences politiques. Et je me demande aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on vient de dire depuis le début de cet entretien, et au regard de, par exemple, j'ai ici un sondage sous les yeux, seuls 32% des Américains aujourd'hui approuvent l'action israélienne à Gaza. C'est un sondage extraordinairement sérieux de l'Institut Gallup. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ce qu'on a dit auparavant. Je ne dis pas qu'on est responsable de nos malheurs.
Vous parlez, mais je dis,
en poursuivant la guerre, on poursuit cette exaspération, on poursuit. Si les objectifs sont... on a le sentiment qu'on est, comme vous avez dit vous-même d'ailleurs, on est plus ou moins arrivé à la fin du Hamas. Est-ce que ce n'est pas le moment de se dire il faut prendre des décisions douloureuses?
Alors quand vous avez dit justement que vous étiez en première année de Sciences Po à Tel Aviv, ils m'ont dit quand on commence une guerre, il faut savoir comment on va s'en sortir. Ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre. Nous avons été attaqués par le Hamas, n'oublions pas. Ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre, c'est nous qui la finirons. Mais ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Et pour la finir, cette guerre, il nous faut nos otages. C'est tout simple. Vous savez, l'État d'Israël n'a pas de raison d'être, perdra sa raison d'être si on abandonne nos otages. L'État d'Israël, en fin de compte, et on parlait de l'Aliya, on parlait justement du fait que c'était un refuge pour tous les Juifs à travers le monde pour qu'ils puissent vivre en paix dans un État, dans leur État, sans craindre de pogrom et sans craindre de violence antisémite. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons été attaqués. Ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre. Franchement, la raison pour laquelle ça nous a pris des longues semaines pour réagir à cette attaque, c'est parce qu'on n'avait aucun plan pour rentrer en guerre justement avec Gaza. N'oublions pas, c'est important que nous le disions, non seulement entre nous, mais que nous le disions à tout le monde. Parce que cette guerre, elle nous a été imposée. Cette guerre, c'est quand le Hamas est rentré, il a tué, il a violé, il a kidnappé, il a brûlé, il a découpé des enfants. C'est alors que cette guerre a commencé. Et c'est nous qui allons la terminer. Cette guerre ne peut pas se terminer tant que nos otages ne seront pas rentrés. Dès que nos otages seront rentrés chez eux, cette guerre sera finie.
Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un tournant par rapport à ce que je dis, c'est-à-dire la dégradation de l'image d'Israël sur la scène internationale avec l'histoire de l'aide humanitaire?
On a fait des erreurs.
Une grosse erreur, justement.
C'est pas une grosse erreur, parce que vous savez, il faut comprendre. Ce qui s'est passé avec l'aide humanitaire, c'est qu'on a découvert que le Hamas était enrichi en détournant l'aide humanitaire, en la vendant à la bande de Gaza, aux Gazaouis. Et donc, on a compris que, afin d'affaiblir le Hamas, il fallait. Et en plus, afin que pour faire en sorte que les Gazaouis aient la nourriture qu'il fallait, il fallait la distribuer directement avec les Gazaouis. Alors, on a commencé à essayer de la distribuer directement, mais le Hamas a combattu cela. Il a combattu cela en tuant les Gazaouis qui allaient oser reprendre l'assistance humanitaire directement, et non seulement cela, en faisant une campagne de désinformation terrible qui a été adoptée malheureusement par beaucoup de médias, par certains membres de la communauté juive en France même, et par aussi des politiciens et par certains pays dans la communauté internationale. Alors l'erreur que nous avons faite, c'est que nous n'avons pas compris suffisamment vite qu'il y avait malgré cette campagne, qui était une campagne de désinformation, qu'il y avait vraiment un problème qu'il fallait essayer de résoudre dans d'autres façons. Et là, ensuite, une autre erreur que nous avons faite, c'est de penser que l'ONU allait vraiment nous aider à distribuer l'assistance humanitaire que nous mettions à la disposition des Gazaouis. Vous savez, il y a 1000 camions qui sont encore en train de pourrir au soleil parce que l'ONU n'accepte pas de les distribuer aux Gazaouis. Alors, c'est bien de nous dire l'assistance humanitaire, on aurait dû la distribuer plus rapidement, on aurait dû faire en sorte qu'elle sorte plus rapidement, etc., etc. Mais il y a 1000 camions d'assistance humanitaire israéliens, de farine, de riz, de médicaments, de couches, de nourriture pour bébés, qui sont en train de pourrir au soleil. Et c'est l'ONU, le même ONU qui crie qu'il y a soi-disant une famine à Gaza. C'est le même ONU, c'est les mêmes organisations qui font ça, qui crient qu'il y a une famine à Gaza, qui refusent de distribuer cette assistance humanitaire. Alors vraiment, nous sommes dans un monde fou où tout le monde est tellement cynique que c'est impossible.
Alors, juste une dernière question.
Pour terminer cet entretien, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais qu'on reparle un peu des tensions qu'il y a en ce moment entre Paris et Jérusalem. Dernièrement, il y a eu des flambées de tensions en Cisjordanie avec des morts. Ce que le Quai d'Orsay a qualifié de terroriste, a qualifié les colons de Cisjordanie et les colons israéliens de terroristes après ces flambées de tensions.
Alors, je vais dire deux choses à ce sujet. Premièrement, c'est des criminels, hein, clairement. C'est à chaque fois qu'il y a des colons, que ce soit des colons ou d'autres, qui attaquent des Palestiniens, qui brûlent des arbres, ça, c'est des criminels. Mais franchement, c'est un peu fort que le Quai d'Orsay appelle ces jeunes criminels, terroristes, quand, par exemple, les gardes de la révolution iranienne, eux, ne sont pas définis comme terroristes en France. Bah, là, je pense qu'il y a un problème de valeur. Là, je pense qu'il y a un problème de proportion.
Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Merci d'être venu nous voir ici dans les studios de Radio Shalom pour rencontrer directement les auditeurs de Radio Shalom. Merci et bonsoir.
Bonsoir.